Théophile Gautier, Jean et Jeannette. La marquise de Champrosay est à sa toilette, ses femmes l'accommodent. Le galant édifice de sa coiffure touche à sa fin. Des houppes de cygne s'échappent à nuages de poudre à la maréchale, dont la marquise préserve ses yeux en tenant cachée sa charmante figure dans un cornet de maroquin vert, pomme. Au grand désespoir de monsieur l'abbé, qui proteste contre cette éclipse. Enfin, l'opération est terminée. Les cheveux blonds cendrés de la marquise, relevés en hérissons sur le sommet de la tête, crêpés en neige sur chaque face, ont disparu sous cette poussière blanche qui s'allie si bien au ton de pastel de sa peau. Un long repentir, faiblement bouclé, descend le long de son col et vient jouer sur sa poitrine un peu découverte. Madame de Champrosay abaisse le fatal cornet et son joli visage, frais comme une rose pompon, apparaît dans tout son éclat. Oh, l'abbé ne se sent pas d'aise. Il s'est levé brusquement de la duchesse où il était étendu et papillonne dans la chambre. Dans sa joie, il heurte les meubles, renverse les porcelaines, gêne les femmes, fait japper le petit chien et glapir le sapajou, effrayé de sa turbulence. Il jette au loin le malencontreux cornet qu'il appelle l'éteignoir des grâces et va se placer au bon point pour détailler le charme de la marquise. « Oh, vrai, marquise !» dit l'abbé dans son enthousiasme. « Oh, cette coiffure vous sied à ravir !» Les amours ont pétri votre teint et vous avez aujourd'hui les yeux d'un lumineux particulier. Vous trouvez, l'abbé, répond la marquise en minaudant et en jetant un coup d'œil à sa glace entourée de dentelles posée sur sa toilette. Oh, cependant, j'ai passé une nuit affreuse et j'ai une migraine horrible. Oh, je souhaiterais à la baronne de ces migraines-là. Qui vous mettent la joue en fleurs et vous font plus fraîche qu'aimée. La vraie migraine a l'œil battu et le teint plus jaune qu'un coin. Je m'inscris en faux contre la vôtre. Eh bien, soit, je n'ai pas eu la migraine, mais j'ai eu des vapeurs. Par la cerise de votre bouche, par les roses de vos pommettes, par le brillant humide de vos prunelles, oh, je soutiens que vous allez au mieux et que vos vapeurs sont de pures chimères. L'abbé, vous êtes d'une barbarie insoutenable. Je suis mourante et vous me brutalisez de compliments à brûle pour point sur ma fraîcheur et mon air de santé. Alors dites-moi tout de suite que je suis potelée ou jaune. Comparez-moi à quelque divinité mythologique de plafond qui a des joues de pommes d'api et des appâts de nourrice. Bon là là, ne vous fâchez point, moi j'avais mal vu, et vous admirez d'habitude et de confiance. Je m'aperçois en effet que vous avez une mine d'enterrement et de lendemain de bal. Allons, tendez-moi votre petite main blanchette, que je vous tâte le pouls. Je me pique un peu de médecine et je donne des avis qui ne sont pas à mépriser. » D'un air languissant qui fait un contraste parfait avec les lys et les roses de son teint, Madame de Champrosay tend à l'abbé, qui le prend délicatement entre le pouce et l'index, un joli bras fait autour qui sort d'un sabot de dentelle. L'abbé paraît écouter et compter les pulsations avec une attention profonde, et si sa bonne figure rebondit ou le rire a creusé deux fossettes, pouvait se prêter à une expression grave, il lui semblait sérieux en ce moment. La marquise le regarde, émue, retenant sa respiration, de l'air de quelqu'un qui attend son arrêt. « Êtes-vous convaincu maintenant ? » dit-elle en voyant la mine pleine de compunction de l'abbé. « fit l'abbé. « Oh, voilà, pour qui ne dit rien de bon ?» Cette gentille veine bleue ne se comporte pas bien sous mon pouce. Elle est capricieuse en diable. Serais-je grièvement malade ? Soupira la marquise. Oh non pas, répliqua l'abbé d'un ton rassurant. Non, non, il ne s'agit pas ici de ces grosses maladies, comme rhume, fièvre ou fluxion de poitrine, qui regarde Tronchin ou Bordeux, mais je vous soupçonne véhémentement d'avoir le moral affecté. Ah, le moral, c'est cela, s'écria la marquise, enchantée d'être si bien comprise. Il y a là-dessous quelques peines de cœur, continue l'abbé, et Cupidon a fait des siennes. Ce petit dieu malin ne respecte pas toujours les marquises. À cette assertion, Madame de Champrosay prit un air suprêmement dédaigneux et dit à l'abbé, « Des peines de cœur, fille donc, me prenez-vous pour quelque de bain de Balieu ou bien j'ai l'air d'une grisette amoureuse ?» Oh, mais ce n'était qu'une supposition, je la retire. J'ai peur que vous ne voyiez depuis quelque temps mauvaise compagnie et que vous ne donniez dans la fréquentation des bourgeois pour m'accuser de pareilles choses. Peut-être le veuvage vous peste-t-il et avez-vous de ces mélancolies qui viennent d'être seules le soir dans un vaste hôtel. Mais décidément, votre esprit est en baisse, dit la marquise en modulant un petit éclat de rire clair, argentin, vibrant, plein d'une naïveté insolente de grande dame. Mais alors, qu'avez-vous donc, car les diagnostics me trompent et ma science est en défaut? Je m'ennuie, répond la marquise, avec un air d'accablement et en se laissant aller sur son fauteuil. À ce mot, la figure de l'abbé prit une expression d'étonnement extrême. Ses fossettes se comblèrent et ses yeux restèrent fixés sur Madame de Champrosay, plein d'inquiétudes et d'interrogations. Le XVIIIe siècle ne s'ennuyait pas avec ses magots, ses porcelaines, ses trumeaux tarabiscotés, ses petits soupers, ses faciles conquêtes, ses couples égrillards, ses gouaches libertines, ses sofas, ses tabatières, ses nymphes, ses carlins et ses philosophes. Il n'avait guère le temps de s'attrister, ce joyeux XVIIIe siècle. Aussi, le mot de la marquise consterna-t-il l'abbé et lui parut-il incompréhensible. Qu'une marquise riche de 200 000 livres de rente et charmante veuve à 18 ans du mari que voilà, fit l'abbé en tendant la main vers un pastel ovale où grimaçait, sous le hardois du dieu Mars, une figure jaune, sèche, ridée et plus que sexagénaire, dire qu'elle s'ennuie, mais cela manque de toute vraisemblance. Cela est pourtant. Vous, dont l'existence coule parmi les rires, les jeux et les plaisirs, vous ennuyez? Mais que pourrais-je faire pour sortir d'un état si funeste? Et si vous changiez votre sapajou contre un ouistiti et votre carlin contre un gredin? C'est une idée que vous me donnez là. J'essayerai, mais j'ai bien peur que ce moyen ne me suffise pas. Bien, à votre place, je renouvellerai la tenture de ce cabinet. Le bleu a quelque chose de trop langoureux qui pousse à la rêverie. Une nuance plus égayée conviendrait mieux à la situation de votre âme. Rose tendre, par exemple. Oui, rose tendre et glacée d'argent, cela me tirerait un peu de mes idées noires. Je menderai mon tapissier. En attendant, trouvez-moi quelque chose qui m'amuse. Voulez-vous que je vous fasse la lecture? La table est couverte de brochures, de livres et d'annas de toutes sortes d'auteurs. Bon, ce n'est pas que je fasse le moindre cas de ces grimaux, de ces gras de papier, mais quelquefois, parmi les saugruités que ces espèces tirent de leur cervelle biscornue, il se trouve des drôleries dont on peut rire sans conséquence. Voici le grelot, l'écumoire, les matines de Cythère, dit l'abbé en feuilletant les volumes. Vous plairait-il d'entendre le discours où la fée moustache, métamorphosée en taupe par la rancune du génie de Honquille, énumère à Tanza et à Néanarné les perfection du prince Cormoran, son amoureux. Oh, c'est un beau morceau. La malheureuse marquise de Champrosay fit un signe d'assentiment. s'arrangea dans sa bergère, allongea sur un tabouret ses petits pieds chaussés de mule qu'une chinoise n'eût pas trouvée trop grande, et parut résigné à l'audition du chef-d'œuvre. L'abbé commença le panégyrique de Cormoran par moustache, d'un ton minaudier et superlico-cancieux. C'était le plus beau danseur du monde. Personne ne faisait la révérence de meilleure grâce. Il devinait toutes les énigmes, jouait bien tous les jeux, tant de force que d'adresse, depuis le trou madame jusqu'au ballon. Sa figure était charmante et empaquetée, si l'on peut le dire, dans les agréments les plus rares. Il savait accompagner de toutes sortes d'instruments une voix charmante qu'il avait. Outre les talents que je viens de nombrer, il faisait joliment les vers. Sa conversation enjouée, sérieuse, satisfaisait également par ses grâces et sa solidité. Austère avec la prude, libre avec la coquette, mélancolique avec la tendre, il n'y avait pas à la cour une dame dont il n'excitât la jalousie. La supériorité de son esprit ne le rendait pas insociable. Complaisant avec finesse, il savait se plier à tout. Il possédait mieux que pas un le jargon brillant, il n'y avait personne qui ne fût comblé de l'entendre. Et quoique cet être farouche, intitulé le bon sens, n'agit pas toujours civilement avec ce qu'il disait, l'élégance insoutenable de ses discours faisait qu'il n'y perdait rien ou que le bon sens, caché derrière une multitude miraculeuse de mots placés au mieux, aurait paru d'une insipidité affadissante à ses spectateurs les plus absurdes s'il eût vécu moins légèrement. Un imperceptible bâillement, réprimé par politesse, contracta la mâchoire de madame de Champrosay, qui d'abord avait souri aux aimables qualités de Cormoran. « En effet, continua l'abbé, la raison est vulgaire. Elle paraît toujours ce qu'elle est. Elle craint de se noyer dans l'enjouement et ne manque pas de faire un saut en arrière quand une idée singulièrement tournée se présente ou qu'une imagination lumineuse se place commodément dans le cœur. Après cela, si elle triomphe, c'est d'une façon si insultante pour l'humanité, l'amour-propre le mieux élevé, qui trouve tant de décrits, qui perd tant de ses grâces, prend si mauvaise opinion de lui-même, qu'il faudrait qu'il fût bien ridicule pour ne pas lui rompre en visière. « Oh, grâce, abbé !» dit la marquise, en laissant voir toutes ses belles dents blanches, dans un bâillement coquet. « Ce que vous lisez là est sans doute le plus joli du monde, mais je n'y saurais rien comprendre et je n'ai guère envie de m'y efforcer. » Le volume fut replacé sur la table. On annonça des visites, le petit chevalier de Verteuil, le gros commandeur de Livry, le financier Bafogne, un Midas qui n'avait pas d'oreille d'âne, bien qu'il les méritât, et qui changeait en or tout ce qu'il touchait. On s'accorda à trouver l'œil de madame de Champrosay légèrement battu et sa mine inquiétante, quoique toujours jolie. Seulement le petit chevalier se récria et dit qu'il était déshonorant pour la jeunesse française qu'une charmante marquise se mourût d'ennui au milieu du joyeux règne de Louis XV, le bien-aimé. Il fut décidé qu'une promenade serait de bon effet et que l'air du boudoir, chargé de parfums d'ambre, portait aux nerfs, causait des vapeurs et faisait donner dans mille bizarreries que le grand air dissiperait infailliblement. Le chevalier promit d'être de la dernière folie. Le commandeur jura de ne point parler de ses conquêtes. Bafogne prétendit qu'il comprendrait les turlupinades du chevalier en se les faisant répéter seulement trois fois. Quant à l'abbé, une affaire l'appelait ailleurs. Il devait retrouver la compagnie chez le garde, au pont tournant, où l'on dînerait en revenant du cours à la reine, avant d'aller à l'opéra. Chapitre 2. Ce qui fut dit fut fait. L'on attela les quatre chevaux soupe de lait à la calèche Lila Tendre, verni par Martin, qui, par sa coupe, représentait la conque de Vénus. La marquise étala ses grâces languissantes sur les coussins de velours blanc. Le chevalier dit des choses de l'autre monde en termes d'une singularité piquante et d'un inattendu merveilleux. Il déchira le tiers et le quart, la cour et la ville, raconta des histoires scandaleuses avec des détails d'une vivacité incroyable et juste assez gazée pour ne pas forcer la pudeur de la marquise à se réfugier derrière l'éventail. Le commandeur allait commencer le récit d'une de ses bonnes fortunes avec une demoiselle de l'espalier, mais il s'arrêta à temps. Le financier ne fut que suffisamment stupide pour l'emploi. Le cocher coupa toutes les voitures avec une insolence inouïe et qui sentait son cocher de bonne maison, sûr de ses maîtres. Tout alla au mieux. Le garde s'était surpassé. Les mets furent déclarés exquis et les vins de choix par l'abbé, qui se piquait d'être gourmet et ne laissait point surprendre sa religion en pareille matière. À l'opéra, les Indes galantes furent chantées avec moins de cris que d'habitude, grâce aux critiques de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, qui avait tympanisé dans ses écrits le urlo francese, et les Français, danseurs, exécutèrent un ballet où le sentiment de l'amour était peint par des attitudes voluptueuses mais décentes, qui jetaient une douce langueur dans l'âme et arrivaient au cœur par le chemin des yeux. Et cependant, lorsque Madame de Champrosay rentra chez elle, assez tard dans la soirée, elle s'ennuyait toujours. La marquise avait-elle donc une de ces humeurs atrabilaires et sauvages, un de ces esprits insociables qui prennent tout au rebours et se forgent dans la solitude de lugubres chimères? On ne peut mieux née, ayant toujours vécu dans l'extrêmement bonne compagnie, débarrasser les préjugés gothiques d'une vertu ignoble qui l'eût empêché de demander le bonheur au plaisir, Madame de Champrosay ne donnait pas dans le travers des idées romanesques. Pourtant, elle ne pouvait se dissimuler qu'elle connaissait d'avance les plaisanteries du chevalier et les arriettes des ânes galantes. Bien des fois, déjà, elle était allée se promener au cours La Reine en calèche découverte, précédée de son coureur Almanzor, basque dératé et léger comme un cerf. Ce n'était pas non plus la première fois qu'elle soupait chez le garde, et sans avoir l'esprit tourné aux nouveautés de mauvais goût, la marquise eût souhaité quelques divertissements d'un régal plus vif. Lorsque Justine vint pour mettre sa maîtresse au lit, elle lui trouva l'air excessivement abattu. Et en femme de chambre favorite, à qui la fidélité de ses services donne des droits à une certaine familiarité, elle hasarda quelques questions auxquelles la marquise répondit avec cette ouverture de cœur d'une personne qui souffre et se veut soulager de sa peine en la comptant. Veuve depuis 2 ans d'un homme pour qui l'extrême différence d'âge ne lui permettait d'avoir que du respect, la marquise de Champrosay, sans avoir eu personne en pied, s'était laissée faire la cour d'assez près, et peut-être Justine, si elle eût été la discrétion même, eût-elle pu affirmer que, si sa maîtresse ressemblait à quelque femme de l'Antiquité, assurément, ce n'était point à la belle Artémise, veuve de Mausole. Après avoir écouté le récit des douleurs de sa maîtresse, Justine dit avec le ton le plus respectueux « Il semble que madame n'a pas d'amant en ce moment-ci. »« Non, ma pauvre Justine, » répondit madame de Champrosay d'un air découragé. « C'est la faute de madame, » car les soupirants ne lui manquent pas, et j'en sais un tas des mieux situés qui font le pied de grue devant ses perfections. « Oh, sans doute, on n'est point encore laide à faire peur, » dit la marquise en lançant un coup d'œil à un trumeau de glace. Mais le chevalier de Verteuil est fou de madame. Combien de louis t'a-t-il donné pour me le souffler dans le tuyau de l'oreille, à mon coucher ou à mon lever? Oh non, madame, c'est que je suis le désintéressement même. La passion du chevalier me touche, voilà tout. Mais s'il ne plaît pas à madame, il y a encore le commandeur de livrée qui l'adore. Oui, il m'aime un peu plus que Rose ou la Désobrie. Que le chevalier et le commandeur perdent la tête pour moi, cela m'est bien égal, s'il ne la perd pas pour eux. Oui, je voudrais aimer quelqu'un de jeune, de frais, de pur, de naïf, qui croit encore aux sentiments, et dont je sois la première flamme. Il m'ennuie de partager avec les filles d'opéra et les impures. Mais ce que madame demande là est bien difficile, répondit Justine, pour ne pas dire impossible. Et pourquoi cela, Justine? Messieurs les ducs, marquis, vicomtes et chevaliers n'ont pas les mérites qu'il faut pour aimer de la sorte que madame désire. Tu crois? Oh, j'en suis sûr. Les femmes se jettent à leur tête par vanité, coquetterie ou intérêt. Ils ont leurs poches pleines de poulets, de miniatures et de tresses de cheveux. Et puis, comme dit madame, l'opéra est un lieu terrible pour la commodité des soupirs. Ainsi, à ton avis, Justine, les gens de qualité ne sont point capables d'une flamme au goût dont je la voudrais? En aucune façon, et à moins que madame la marquise le déroge, j'ai bien peur qu'elle puisse se satisfaire l'imagination. Déroger? Qu'y penses-tu, Justine? Non, ce n'est point un conseil que je donne. Oh non, c'est une réflexion que je fais. Mais je ne saurais descendre plus bas qu'un baron. Oh, les barons manquent totalement de naïveté. Il y en a qui sont pires que des ducs. Eh bien, je choisirai mon soupirant parmi les écuyers. Bon, les écuyers se font si retors par les morales qui courent. Mais je ne puis cependant pas aimer un roturier. Si, un roturier seul vous aimera. Oh, quelle folie étrange! Mais l'amour est notre richesse, à nous gens de rien, qui ne possédons ni titre, ni château, ni carrosse, ni diamant, ni petite maison au faubourg. Comme tu dis cela, ben, il faut nous en tenir à l'amour. Le plaisir est trop cher. Tu as donc un amoureux bien épris, bien tendre, bien fidèle. Puisque madame le dit, je ne la démentirai pas. Oui, sans doute quelques princes de la livrée, mon coureur Almanzor ou Azolan, le chasseur du marquis. Pardonnez-moi, madame, mais des domestiques de grande maison deviennent presque aussi vicieux que des maîtres. Alors qui est-ce donc? Un pauvre garçon, très ordinaire, courtaud de boutique de son état, et qui n'a d'autre beauté qu'une santé vermeille, et d'autre mérite que de m'aimer comme une bête. Ah, cet amour-là est le bon, que tu dois être heureuse. Oui, surtout les jours où madame n'a pas besoin de moi, et m'accorde la permission de sortir. Ce soir, par exemple, si vous m'en donniez le congé, j'irais à un petit bal au Moulin Rouge pour les noces de ma cousine. Est-elle jolie, ta cousine? Comme un cœur, des yeux bleus, des cils longs comme le doigt et un air de rosière. Et quels gens y aura-t-il à ce bal? Oh, des gens très huppés, des bourgeois ayant pignon sur rue, des fils et des filles de marchands, des clercs d'huissiers et de procureurs. Il y aura un violon, un fifre et un tambourin. On soupera et le matin on ira cueillir les lilas dans les prés de Saint-Gervais. Ah, tu me donnes envie d'aller à ce bal. Cela me distrairait. Mais quelle drôle de mine doivent avoir tous ces gens-là. Mais si cela pouvait amuser madame, rien ne serait plus aisé. Je lui mettrais un de mes costumes et la ferais passer pour une de mes amies. Avec mon fourreau et mon casaquin de boules de soie revirées rose et blanc, un fichu de linon, un chignon plat et un babolet de dentelle, elle sera parfaitement déguisée et cependant toujours belle. Flatteuse! Et tu crois que tes habits m'iront bien? Mais nous sommes à peu près de la même taille, seulement madame a le corsage plus fin que moi, mais avec un pli et deux épingles, on arrangera cela. Madame de Champs-Osay, éveillée par le piquant d'une fantaisie, n'était plus la femme nonchalante de tout à l'heure. Elle avait quitté son air languissant et ses poses endormies. Son œil brillait, sa petite narine rose frémissait. Elle était elle-même Justine attirée sur sa jambe faite autour de fins bas gris de perles à coin rouge, à chausser les souliers mignons ornés de petites boucles d'argent. Le savant édifice, élevé le matin avec tant de soin et de travail, fut démoli en quelques coups de peigne. Madame de Champs-Osay n'en fut pas moins jolie. Le déshabillé de Justine se trouvait allé au mieux à la marquise. En ce temps-là, les femmes de chambre, se modelant sur les soubrettes de comédie, se permettaient d'être aussi bien faites que leurs maîtresses, quelquefois mieux, ce qui n'était point le cas de Justine, car madame la marquise de Champs-Osay ne devait point ses charmes aux ressources mystérieuses d'une toile savante. Elle n'avait rien à cacher, rien à réparer, et restait jolie même pour sa soubrette à l'encontre de ses héros qui n'en sont plus pour leurs valets de chambre. Justine envoya chercher une voiture de place qu'on fit approcher de la petite porte du jardin, et la marquise, bien emmitouflée d'une calèche en taffetas gorge de pigeon, dont le capuchon lui rabattait sur les yeux, s'élança joyeuse dans le char de louage, et le cocher fouetta les haridelles dans la direction du Moulin Rouge, croyant emmener deux femmes de chambre allant en partie fine. Chapitre 3. À peu près à l'heure où madame de Champs-Osay venait de quitter son hôtel, déguisée en grisette endimanchée, un souper avait lieu chez la Guimard, célèbre sujet de l'Académie royale de musique et de danse. Ce souper réunissait plusieurs seigneurs des plus beaux noms de France, qui ne daignaient pas de venir se délasser chez cette belle damnée, comme l'appelle M. de Marmontel, de l'ennui que leur avaient causé des sociétés plus décentes. La salle à manger, décorée avec un goût qui faisait honneur à l'esprit de l'illustre impur, et une richesse qui faisait honneur à la magnificence de M. de S, réunissait tout ce qu'un luxe délicat peut mettre au service d'une élégance raffinée. Les marbres les plus précieux avaient été rassemblés à grands frais pour en revêtir les lambris ou des dorures placées à propos, mais sans cette surcharge qui, sans son traitant et son financier, encadrait des peintures ajustées à la destination du lieu et dues au pinceau moelleux et léger de M. Fragonard, l'élève des Grâces et le peintre ordinaire de Terpsichore. De petits cunus d'amour fouettés de rose entassaient dans des corbeilles les dons de Cérès, de Bacchus et de Pomone. L'un d'eux-mêmes acceptait des mains d'amphitrite différents poissons de couleurs variées, entre autres un homard qui lui pinçait le doigt et lui faisait faire la plus gentille grimace du monde. Des guirlandes de fleurs et de fruits d'une touche spirituelle autant que fraîche rattachaient entre eux ces médaillons auxquels leur auteur avait mis tous ses soins par reconnaissance pour son aimable protectrice. La table était servie avec une délicatesse inouïe. Ce n'était que rareté, primeur, mets exquis à profusion. Le vin d'Ailly et de Sillery, ce vin vraiment français qui rit dans la fougère et semble pétiller de bons mots, refroidissait au milieu de la glace dans des urnes d'argent ciselées par Germain et fréquemment renouvelées, animait la gaieté des convives. Des personnes moins habituées à de pareilles magnificences aurait oublié la bonne chère pour contempler le surtout merveille de Clodion, où ce statuaire qui excelle dans ces sortes d'ouvrages s'était vraiment surpassé. Ce surtout de bronze doré représentait l'histoire de la nymphe Syrinx, poursuivie à travers les roseaux par le grand dieu Pan. L'ensemble du dieu libertin était suivi par une foule d'égypans, de satyres et de faunes qui agaçaient, lutinaient, embrassaient et renversaient les nymphes, compagnes de Syrinx, sur des joncs et des feuillets formant de jolis motifs d'ornement. Ces figurines avaient une liberté dans l'exécution, une volupté dans les attitudes, une passion dans les gestes, qui les faisaient paraître vivantes et décelaient chez le sculpteur un grand feu d'imagination et une facilité merveilleusement tournée aux choses de la galanterie. Les nymphes, surtout, étaient charmantes. Leur pudeur, bien qu'effarouchée, n'avait rien d'outrageusement sauvage. Dans son trouble, Syrinx faisait les trahisons les plus utiles au charme qu'elle essayait de cacher. Les roseaux et les herbages, se fermant tout souvent d'à propos, laissaient tout voir sans montrer rien. Dans les figures de ces nymphes, les connaisseurs prétendaient reconnaître les traits de plusieurs des beautés à la mode. Oh, cette supposition n'avait rien d'invraisemblable. Et dans les masques des satyres et des égypans, ceux de traitants, de financiers, même de certains vieux seigneurs, fort connus par leur luxure. La société n'était pas des plus nombreuses, mais elle était choisie. 4 ou 5 hommes, et à peu près autant de femmes, la composaient. Comme nous l'avons dit, les hommes appartenaient au plus grand monde, aux familles les mieux situées à la cour. Quant aux femmes, c'étaient des impures, des damnées, des comédiennes, pour qui la scène n'était qu'un prétexte, car on ne sait pas pourquoi la bonne compagnie, lorsqu'elle veut se divertir, est forcée d'avoir recours à la mauvaise, ce qui ferait croire que le vice a plus d'agrément que la vertu, conclusion que doit réprouver la morale. La Guimard présidait le souper avec cette grâce spirituelle, cette volupté et ce feu qui faisaient d'elle la grande prêtresse du plaisir, religion qui comptait bien peu dater dans ce galant XVIIIe siècle. Sa maigreur célèbre s'expliquait par l'entraînement de la danseuse, qui avait bien voulu sacrifier quelques-unes des rondeurs de la femme à la légèreté de son art. Cette maigreur, qui n'avait rien de désagréable, ne se traduisait que par des élégances, des grâces et des finesses. Sa taille, dégagée d'appât superflu, s'enchâssait naturellement dans un corsage fluet comme le corps d'un papillon, dont sa jupe étincelante semblait former les ailes. Sa main frêle et diaphane se jouait dans des bagues de diamants qu'une petite fille de 10 ans n'eût pu mettre à son doigt. Sa poitrine, intrépidement décolletée, étalait les plus délicieux néants, et l'on peut dire que jamais le rien ne fut plus joli. Son col mince et blanc avait beaucoup de noblesse, et lui faisait porter la tête comme un oiseau ou comme une fleur. Ce qu'il avait fallu de millions jetés au vent et de fortunes absorbées pour arriver à cette ardente maigreur, on pouvait le supputer dans les yeux dévorants, illuminés de fantaisies impossibles, qui animaient cette figure dont le phare rougissait, sans l'altérer, la pâleur délicate. Beaucoup de femmes ont eu le goût du luxe et des plaisirs, mais la Guimard en avait le génie. Les 3 autres avaient ce teint de pastel, fait d'un nuage rose et blanc veiné d'azur, cet œil en coulisse, tout chargé de moqueries et de désirs, ce nez irrégulier, ni grec ni romain, plein de caprices et d'esprit, cette bouche en cœur, prête pour le baiser ou le sarcasme, ces fossettes où les ris donnent l'hospitalité aux amours, cette physionomie mobile, éveillée, piquante, si bien en accord avec les mœurs, les arts et les modes du temps, et dont le type est aujourd'hui perdu. Le rajustement de la plus charmante folie, plein de nœuds, de rubans et de papillons de pierreries et de fleurs, égayait les yeux par ses couleurs agréables et tendres, car, vu la saison, Ces dames étaient en habit de printemps vert pomme, rose et bleu de ciel. La Guimard seule était en blanc, comme une vestale, sans doute par antiphrase. Il y avait de coloré dans toute sa personne que ses lèvres et le haut de ses pommettes. Toute la lumière se concentrait sur elle et semblait la désigner comme reine de la fête. Monsieur Fragonard lui-même, s'il eût voulu faire un tableau de cette fête, n'eût pas autrement disposé les groupes et contrasté les nuances. Certes, si l'on demandait à un jeune homme, et même à un homme d'âge mûr, s'il connaît un moyen plus agréable de tuer le temps que de faire un excellent souper dans une salle éclairée par un incendie de bougies, avec les plus gens d'esprit de la cour et les plus jolies femmes de l'opéra et de la comédie, il répondrait que non, et que rien n'est comparable au plaisir de porter des santé à la plus belle avec du vin de champagne, assis entre deux nymphes brillamment parées, dont le rire éclate et dont la joue rougit sous le fard d'aise et de plaisir. Chapitre 4. Eh bien, ce divertissement paraissait très peu réjouir le vicomte de Candale, qui, renversé sur sa chaise, attendait d'un air triste et nonchalant que la mousse qui écumait dans le cornet de cristal de son verre se fût éteinte pour le porter à ses lèvres et répondre à la santé que la belle Guimard, debout et sa jolie main appuyée sur la table, venait de porter en ces termes. « Ah, monsieur le vicomte de Candale, autrement dit le beau ténébreux !»« Oui, à la santé du nouvel abbadisse des Gaules !» crièrent en chœur les autres convives en tendant leur verre du côté du vicomte de Candale. Le vicomte, après avoir choqué son verre avec celui de chaque convive, le vida silencieusement et le reposa près de lui. « Ce cher vicomte, dit en souriant une jolie femme, dont l'œil déjà vif était allumé par une touche de fard placée à propos sous la paupière, ce cher vicomte, a-t-il reçu quelque mauvaise nouvelle? Est-ce que, par hasard, l'ongle dont il hérite et qui paraissait sentir le ridicule qu'il y a de ne pas mourir à 70 ans aurait renvoyé ses médecins et se remettrait à vivre? Tais-toi, Cydalise, reprit une grande fille en taffetas vert, glacée d'argent, et qui faisait avec sa voisine un contraste parfait. Monsieur de Candale n'est point encore si bien, si bas percé, qu'il en soit assoupiré après les héritages. Cet incomparable fils de famille mangea même sa légitime, mais il a encore de quoi être aimé à l'opéra pendant un lustre. Ouh, dit Cydalise, quand il aura plus d'argent, on lui fera crédit et on l'aimera sur billet payable avec la dot de sa femme. Et moi, dit une blonde fort jolie en se penchant à l'oreille du vicomte avec un abandon voluptueux, je l'aimerai pour rien. C'est bien cher, Rosette, répondit Candale, en donnant une petite tape amicale sur l'épaule nue et frémissante de la jeune femme. Je préférerais, je crois, dans une extrémité pareille, déclarer ma flamme à Cydalise en engageant mes héritages futurs sur papier timbré. Mais rassurez-vous, je ne suis pas beaucoup plus ruiné qu'à l'ordinaire, et j'ai toujours quelques milliers de louis en réserve pour les choses inutiles. Alors qu'avez-vous donc, Candale? Dit la Guimard, intervenant dans la conversation. Vous êtes d'un morne inouï, et l'on ne vous reconnaît pas. Vous, d'habitude, si vif au repartis, vous vous donnez dans la gravité à faire peur, et vous vous tenez à ce souper comme quelqu'un de Rome siégeant sur les fleurs de lys. Nous ne jugeons personne, mon cher. C'est vrai que ce pauvre Candale a la plus piteuse mine du monde et fait piètre contenance devant les flacons et les beautés, cria de l'autre bout de la table le marquis de Valnoir, qui se sentait déjà de ses nombreuses libations à Bacchus et s'était plusieurs fois fait donner de l'éventail sur les doigts par une voisine peu sévère pourtant. « Je vais le confesser, moi, dit la blonde Rosette en prenant le vicomte par la main et en l'entraînant vers une riche paphos qui se contournait sur ses pieds rocailles, au fond de la salle et offrait aux entretiens amoureux toutes les facilités désirables. « Cher frère, il faut d'abord vous mettre à genoux. C'est l'attitude obligée au tribunal de la pénitence, » dit Rosette avec un air de componction tout à fait édifiant. « Ben, je n'y dérogerai pas, » répondit le vicomte, « surtout lorsque le confesseur a l'œil si tendre et la voix si douce. » Et il s'agenouilla devant Rosette, qui pencha vers lui sa tête charmante. « Quel remords vous agite, que vous portez de par le monde cette physionomie lugubre et pitoyable ? Quelle conquête avez-vous manqué ? Ah, quelle innocence, à quel mari avez-vous fait grâce dans un moment de vertu ridicule ? Ah oui, ce sont là des fautes dont on ne se console point. Bon, je n'ai rien à ce genre à me reprocher. D'innocence, je n'en ai rencontré nulle part. Quant aux époux, ils sont trop vulcains pour qu'on en ait pitié. Non, ma conscience est en règle de ce côté-là. Alors, dès que vous n'avez point commis de ces péchés-là, je vous absous. Il n'est pas nécessaire que vous restiez agenouillés. Allez, prenez place à côté de moi et baisez ma main pour toute pénitence. Candale se releva et posa galamment ses lèvres sur la main fine et potelée de Rosette. Alors expliquez-moi cette physionomie funèbre. Si ce n'est pas le remords qui l'assombrit, c'est le chagrin. Et quel chagrin pouvez-vous avoir? Un amour malheureux? Il ne doit pas y en avoir pour vous. Non, vous me flattez, mais je n'ai point les conditions qu'il faut pour ce malheur-là, puisque je n'aime personne. Savez-vous que ce n'est ni galant ni français, ce que vous venez de dire, monsieur? Apprenez qu'à Paris, un homme du monde est toujours censé amoureux de la femme à laquelle il parle. Bien, vous n'êtes pas une femme, puisque vous êtes mon confesseur. Nullement, vous vous êtes relevé et nous causons. Fi, monsieur le vicomte, je suis femme et très femme. Eh bien, petite, si j'étais amoureux de toi, ce n'est pas cela qui me rendrait triste, car tu ne me recevrais pas en tigresse d'Hyrcanie, si j'en crois ce que tu me chuchotais tout à l'heure à l'oreille. Qu'ai-je donc dit tout à l'heure? Bien que tu m'aimerais, quand même je serais ruiné. Oui, mais comme vous n'êtes pas ruiné, je ne vous aime plus. J'aurais fait cette générosité à votre indigence. Nous qui recevons toujours, il nous plaît quelquefois de donner. C'est une douceur non pareille. » Et en disant cela, la voix enjouée et moqueuse de Rosette avait pris un tour d'attendrissement, et ses beaux yeux bleus s'étaient illuminés d'une douce lueur dont Candale fut frappé. « Quel regret, je ne pas être aussi pauvre qu'un poète. J'ai bien envie, pour me mettre dans l'état qu'il faut pour être aimé de vous, de jouer toutes les nuits. » Vous pourriez gagner de marier des rosières, de doter des académies, de faire des cascades dans le jardin de mon château, ce qui ruine même les rois. Mais tout cela ne serait pas nécessaire, continua Rosette en faisant bouffer sa jupe étalée. Si vous m'aimiez un peu, je me résignerais à souffrir votre richesse, mais vous n'avez pas la moindre flamme à mon endroit. « Oh, c'était vrai tout à l'heure, mais maintenant peut-être ce ne l'est plus, » répondit Candale en se rapprochant de Rosette autant que le permettait le panier et en saisissant sa main qu'elle abandonna sans résistance. « Eh bien, savez-vous le secret de Candale ?» cria le marquis de Valnoire en s'avançant d'un pas mal assuré, que maintenait encore l'habitude de l'ivresse vers le groupe qui s'était installé pendant quelque temps du tumulte général de l'orgie. « Oui, je le sais, » répondit Rosette en se levant et sans retirer la main que tenait le vicomte. « Il m'a confié ses malheurs, et je vous le ramène tout consolé. »«
Peste, quelle consolatrice! Il faudra lui confier la guérison des désespoirs, » grommela le marquis de Valnoir, en reconduisant d'un air ironique le couple vers la table.
Le vicomte de Candale, s'il n'était pas guéri radicalement de sa tristesse, avait l'air à coup sûr beaucoup moins mélancolique. Son œil avait repris du brillant, et il répondit avec beaucoup de grâce et d'esprit à toutes les plaisanteries qu'on lui lançait des quatre coins de la table. Et là, Guimard voit que les malfaisantes vapeurs qui offusquaient la gaieté du jeune gentilhomme étaient dissipées complètement, et qu'elle reconnaissait son Candale d'autrefois. Une santé générale fut votée en l'honneur de Rosette, qui avait opéré ce miracle, et les verres furent vidés religieusement jusqu'à la dernière goutte. Grâce à la vigilante police du marquis de Valnoir, qui mettait une solennité ponctuelle à ces sortes de libations, et ne permettait à personne d'être moins ivre que lui. Au milieu de la bacchanale qui suivit cette santé, sans que personne prît garde à eux, tant chacun était occupé de ses propres affaires, Candale et Rosette s'éclipsèrent. Rosette, qui ne devait s'en aller que plus tard avec l'ami qui l'avait amené, monta dans le vis-à-vis du vicomte de Candale. Ce genre de char semble avoir été inventé par l'amour pour la facilité des aveux et des larcins galants. Beaucoup d'amants timides y ont dû au hasard d'un choc un bonheur qu'ils n'eussent point eu l'audace de demander. Le pied rencontre le pied, le genou frôle le genou, les mains se touchent, les bouches et les joues viennent au-devant les unes des autres. Pour peu que l'énorme cocher, plus ivre que de coutume, coupe brusquement un ruisseau, peu de vertus sortent d'un vis-à-vis comme elles y sont entrées. Rosette, comme on a pu le voir, n'était pas d'une vertu bien farouche, et Candale ne pêchait pas par un rigorisme outré. Eh bien, nous pouvons affirmer, ce qui ne paraîtrait croyable à personne, que pendant le trajet qui fut assez long, le cocher du vicomte, étant trop spirituel pour pousser ses chevaux quand son maître était en vis-à-vis avec une jolie femme, Candale ne se permit pas la moindre liberté, bien que Rosette se penchât souvent vers lui et montra son émotion par ses soupirs étouffés et le mouvement de sa gorge qui faisait trembler son bouquet. Oui, ce fait invraisemblable au XVIIIe siècle se produisit ce soir-là. Candale remit Rosette chez elle sans lui avoir pris un seul baiser et la quitta pour l'avoir saluée au seuil de son appartement. Lorsqu'il fut remonté dans sa voiture, il dit en bâillant: Dieu, que ces filles et ces soupers m'assomment! Mais comment vais-je finir ma nuit? Si j'essayais de m'encanailler un peu et d'aller incognito à ce bal dont Bonnard m'a parlé, il doit se trouver quelques jolis minois de la bourgeoisie et du peuple, plus frais que tous ces museaux célèbres, lustrés de pommade et de phare, qui semblent être polis comme les idoles sous les baisers des dévots. Rosette, à qui pareille aventure n'était jamais arrivée, s'abandonna toute rêveuse aux mains de ses femmes, qui l'accommodèrent et se coucha dans une solitude dont elle paraissait étonnée et chagrine. « Ah, Candale, Candale !» murmura-t-elle en s'endormant.